BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. Les cryptos, on peut l'imaginer aussi quand même, même si les temps sont compliqués. On va en parler, les pros des cryptos, comme chaque vendredi. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Experte crypto indépendante. Owen Simonin avec nous à distance. Bonjour Owen. Sa chaîne
Bonjour.
YouTube, Asher, et il est à la tête bien sûr aussi de Just Mining. Et puis Vincent Bois nous accompagne également en direct. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Depuis IG, alors quelle semaine en bourse quand même, semaine de gala sur les marchés actions traditionnels. Le Nasdaq a pris 7% hier, sur les cryptos c'est exactement l'inverse, c'est toujours l'hiver et le Bitcoin à nouveau sous les 17 000 $. On a envie de dire qu'à une affaire FTX près, on aurait peut-être eu aussi une euphorie sur le marché crypto. Ben, finalement c'est l'inverse, un marché crypto toujours déprimé depuis donc le déclenchement de cette affaire. Faire FTX. D'un point de vue technique, Vincent, est-ce que la baisse des cryptos doit se poursuivre ?
Alors, on est toujours sur les mêmes objectifs. Hein, on en parle assez régulièrement, ça fait plusieurs semaines justement, après ces différents échecs, hein, notamment sous les 21 000 dernièrement, donc avant qu'on ait entendu parler de FTX. Donc peut-être que les données on-chain justement et techniques nous donnaient des informations avant d'avoir l'information finalement. Et donc au niveau technique, on était toujours sur cette poursuite de la baisse et donc qui se vérifie actuellement, qui est poussée par les informations que l'on a aujourd'hui. Et donc l'objectif reste le même, d'aller chercher ce niveau où la liquidité se trouve, donc plutôt vers les 13 000 $, 14 000 $. Donc on a encore du chemin, on est vers les 16 800. Pour le moment, les marchés tiennent malgré l'information concernant FTX et la faillite donc officielle du broker. Pour le moment, tiennent, mais on est toujours donc sur une tendance baissière. Pas de changement au-delà des informations, donc pas de changement sur l'aspect technique. Et donc toujours ce niveau des 13 000 $, 14 000 $ qui devrait être atteint avant très probablement un rebond assez important. Probablement ce week-end ou dans les prochaines séances. À la hausse, il faut essayer de regagner les 17 600, donc qui était l'ancien plus bas annuel que l'on avait atteint il y a quelques mois maintenant. Donc, tant qu'on ne regagne pas ce niveau et qu'on vient dépasser les 18 000, pour moi, donc, l'objectif reste le même, d'aller chercher ces 13 000 $, 14 000 $ avant un très probable fort rebond.
Sur l'Ether, quels sont les seuils techniques également à suivre, à surveiller, à avoir en tête avant de choisir d'éventuellement investir en détectant des points d'entrée? Comment est-ce que vous voyez la suite?
Alors, et l'Ether de son côté, hein, même type de configuration, hein, on a cassé les différents niveaux, on a donc bloqué sur les 1700 que l'on évoquait précédemment, les 1420 qui est l'ancien plus haut historique du bull market qu'on a eu en 2017. Donc tous ces niveaux ont été cassés. Ici, les 1200 à court terme semblent maintenir, mais pour moi, donc même type de configuration au niveau technique, d'aller casser ces 1200 est très probablement en premier objectif baissier. D'aller chercher à nouveau ce seuil des 1000 $ qui avait déjà permis le rebond. C'est le niveau qu'on est allé chercher il y a deux jours de cela, un mercredi, vers les 1050 $. Donc très probable retour rapide sur ce niveau 1000-1050 $, et d'aller chercher l'objectif. Mon objectif, au même titre que le Bitcoin sur les 13-14 000, eh bien, est d'aller chercher les 700-800 $, donc proche du plus bas récent, mais également un niveau technique que l'on avait vu les années précédentes. Et de la même façon, donc un niveau de liquidité qu'on va chercher très probablement et qui pourra permettre donc ce rebond important par la suite.
Vincent Bois, depuis IG, donc une nouvelle baisse aujourd'hui sur les cryptos, puisque FTX se place sous le chapter 11, la mise en faillite. Son patron, son PDG, Sam Bankman-Fried, lui annonce qu'il quitte son poste. Voilà, un nouveau coup de froid sur ce marché crypto qui n'impacte absolument pas les marchés actions traditionnels. Les marchés actions traditionnels, au contraire, sont en phase d'euphorie depuis quelques séances. Alors beaucoup vont se dire, si les cryptos explosent, où est le problème? Côté investisseur, chacun a pris son risque, c'est un marché spéculatif. Personne ne pouvait dire qu'il n'était pas au courant. Et en plus, on voit qu'il n'y a absolument aucun impact de cette baisse des cryptos sur le marché actions traditionnel. Ceux qui pensent ça, ceux qui se disent, Owen, si le marché crypto explose, et alors, qu'est-ce que vous leur répondez?
Déjà que je ne suis pas sûr d'avoir la définition de qu'est-ce qu'exploser. Parce que s'il s'agit du prix des crypto-monnaies, ce sont des actifs volatiles comme d'autres. Donc pour le coup, oui, quand les gens ont peur, c'est l'offre et la demande. On ne peut pas suspendre les marchés, donc ça peut aller très fort dans un sens comme dans l'autre. Et on s'est retrouvé très souvent sur ce plateau pour parler des violents mouvements à la baisse comme à la hausse. Et c'est plutôt l'inquiétude qui règne sur tout l'écosystème qui fait peur en ce moment que simplement la variation de prix. Avoir un Bitcoin qui passe de 20 000 $ à 17 000, c'est très commun, c'est une variation qui est violente, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui peut vraiment faire paniquer. Donc je dirais que sur une variation du prix, qu'est-ce qui pourrait se passer ? C'est simplement que les gens qui ont investi dedans perdent une partie de leur capital, et les entreprises de ce secteur, naturellement, ont plus de difficultés parce qu'il y a moins de financement et il y a moins de possibilités de réaliser des profits sur ce marché à l'instant T. En attendant, dès qu'on parle des fondamentaux des crypto-monnaies, la blockchain Bitcoin tourne encore. Elle est même d'ailleurs plus soutenue aujourd'hui d'un point de vue technique par les mineurs qu'à l'époque où elle était à 65 000 dollars. Et donc dans son fonctionnement structurel et intrinsèque, la blockchain fonctionne toujours. Et même si les crypto-monnaies perdent de valeur, elles ne fonctionneront pas moins bien demain.
Bon, alors certains d'ailleurs, les Bitcoin maximalistes, certains d'entre eux disent même tout ce qui se passe dans cet univers crypto montre à quel point Bitcoin, lui, est safe. On pourra en parler dans la suite de nos échanges. FTX, c'est pas rien quand même. Donc, mise en faillite, Chapter 11, pour ce qui était, on peut parler au passé désormais, la deuxième plus grande plateforme d'exchange d'investissement en crypto au monde. FTX, c'est pas rien. Il s'était énormément développé par des levées de fonds à travers le marketing, le lobbying, un vrai soft power, FTX même, Claire. Avant d'expliquer ce qui est en train de se passer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les événements marquants qui ont fait l'épopée FTX et qui avaient attiré donc autant d'investisseurs?
Alors, il y en a beaucoup, mais déjà, il faut rappeler que c'est une plateforme qui est effectivement la deuxième plus grande, mais qui est très récente, puisqu'elle a été créée au printemps 2019 seulement par Sam Bankman-Fried. On va reparler de lui pas mal aujourd'hui. Et donc 2019, même à l'échelle des cryptos, c'est très récent, puisque les autres plus grandes plateformes, par exemple Binance, a été créée quand même deux ans auparavant, 2017. Coinbase date de 2012. Donc c'est vraiment une plateforme qui est jeune et qui a connu une croissance très rapide, qui a connu plusieurs levées de fonds, une première dans laquelle a participé notamment Binance, qui finalement est sorti d'ailleurs de l'actionnariat un an plus tard. On en reparlera aussi. FTX a levé 900 millions de dollars en 2021, 400 millions de dollars de nouveau en 2022. Et donc, ça a porté sa valorisation à 32 milliards jusqu'à, évidemment, récemment. Donc, il faut bien se rendre compte quand même de ce que c'est 32 milliards de dollars de valorisation. C'est plus que la capitalisation du Crédit Agricole, par exemple. Donc, c'est vraiment une entreprise de grande taille. C'est une des plus grandes plateformes d'échange. Ils avaient dépassé, d'ailleurs, Coinbase en termes de volume d'échange. Et donc, ils se plaçaient juste derrière Binance. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce stade-là aussi vite? Effectivement, ils ont fait beaucoup de marketing, puisqu'ils ont sponsorisé notamment un certain nombre d'événements sportifs. Souvenez-vous du stade de basketball à Miami qui s'est renommé la FTX Arena. Ils avaient notamment un gros partenariat aussi avec Mercedes sur la Formule 1. Ils avaient un partenariat aussi avec la Ligue de baseball. Bref, ils ont vraiment fait des grosses dépenses en sponsoring, notamment dans le sport, puisque on peut imaginer que les clients des plateformes d'échange crypto sont aussi ceux qui regardent le sport. Et donc, ils ont fait des grosses opérations marketing qui, rétrospectivement, sont d'ailleurs pas mal critiquées, puisque c'était des contrats très onéreux. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une plateforme en faillite qui avait en fait dépensé beaucoup de budget en marketing. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, qu'on appelle SBF dans le milieu, est aussi un financeur de la campagne aux États-Unis, puisqu'il a financé notamment le Parti démocrate. Mmh. Et puis, c'est une plateforme qui a aussi fait des acquisitions. Ils ont notamment acheté Blockfolio pour 150 millions de dollars. Ils ont racheté BlockFi, souvenez-vous, ce produit qui vous permet de gagner des intérêts en y plaçant votre crypto-monnaie. BlockFi qui d'ailleurs désormais ne permet plus de retirer son argent. Et donc cette plateforme aujourd'hui se retrouve en très mauvaise posture. Et dernière précision, et pas des moindres parce qu'on va en reparler ensuite, cette plateforme d'échange avait émis lors de sa création son propre jeton, le FTT, qui permettait entre autres d'avoir des réductions par exemple sur les frais de la plateforme. Donc c'est un modèle assez classique qu'on retrouve dans les ICO, un modèle d'utility token qui quand même avait une valeur d'usage, on peut le dire, un peu limitée.
Oui, et ce FTT, c'est peut-être le ver dans le fruit. FTX, donc deuxième plus grande plateforme au monde alors qu'elle est la plus récente, née en 2019 et aujourd'hui qui nous annonce sa mise en faillite sous le Chapter 11 américain. Que s'est-il passé ces derniers jours, Owen, pour en arriver là?
C'est un truc de fou. c'est clairement une histoire sans précédent dans le monde de la crypto, et surtout pour un acteur aussi gros et aussi, entre guillemets, régulé et suivant les différentes obligations des régulateurs dans les pays dans lesquels il exerce. En tout cas, je vais essayer de vous résumer en deux, trois petites minutes l'histoire. Tout commence, et il faut bien comprendre qu'il y a également Binance dans l'histoire. Le 2 novembre, il y a une annonce d'un média qui s'appelle CoinDesk sur des révélations du bilan de la plateforme FTX, mais bilan de la plateforme FTX au 30 juin. Donc, des informations qui sont déjà une date qui est bien passée. Ce qu'on se rend compte dans ces informations qui sont censées être confidentielles, c'est qu'FTX détient énormément d'actifs, mais énormément de dettes également. Des dettes qui sont inférieures aux actifs, mais on se rend compte de quelque chose. Dans les actifs de la plateforme, une grosse partie de la valorisation de ses ressources viennent de son propre token. Vous vous doutez bien que si vous détenez 80 à 95% de votre propre crypto-monnaie, vous êtes également responsable de son prix. Parce qu'il suffit que vous décidiez de vendre violemment, il n'y aura jamais la demande en face de votre offre et ce trésor sur lequel vous êtes assis va perdre en valeur très très rapidement. Le problème, c'est qu'énormément de dettes et d'emprunts avaient été générés en mettant en caution, donc en collatéral, ses propres tokens. Donc, c'est une histoire un peu plus compliquée que ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a la plateforme FTX, mais il y a aussi et surtout la plateforme de trading Alameda Research, qui est une autre société de Sam Bankman, les deux sociétés travaillant énormément ensemble. Donc, il y a eu un mouvement de panique, principalement sur ce token, le FTT, le token de la plateforme FTX. Et 4 jours après cette annonce, le 6 du mois de novembre, CZ, le fondateur de Binance, le dit tout simplement, nous allons vendre nos tokens FTT parce que suite aux récentes révélations, nous n'avons plus confiance en sa valorisation et nous avons, entre guillemets, peur du coup de la plateforme FTX. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Binance, c'est pas n'importe qui dans cette histoire. Parce que Binance, en 2019, ils avaient investi chez FTX. Et en 2021, l'année dernière, quand FTX avait pris énormément de valeur, Binance a vendu ses parts. Disons que Sam Bankman a racheté ses parts à Binance, tout simplement parce qu'il ne voulait pas un de ses concurrents directs, le plus gros concurrent direct, à sa table lors des grosses décisions importantes pour le développement à venir d'FTX. Binance récupère donc 2,1 milliards, beaucoup plus que ce qu'ils avaient investi en 2019, une partie en BUSD, un stablecoin basé sur le dollar, et une partie en token FTT. Binance, le concurrent direct d'FTX, avait donc une quantité énorme de tokens FTT. Et quand CZ a annoncé « nous allons vendre » et en plus de ça a montré une preuve blockchain d'un transfert vers Binance pour vendre justement d'un peu plus de 600 millions de dollars, les gens ont paniqué, les gens ont commencé à vendre le token FTT, il s'est très rapidement effondré quittant les 25 dollars. À l'heure où je vous parle, il doit être à 2 ou 3 dollars. Créant ainsi des problèmes de solvabilité sur les différentes dettes qui avaient été générées, se basant sur le FTT comme preuve de caution ou de collatéral, et de fil en aiguille, très rapidement, ça a commencé à être compliqué. La plupart des gens ont eu peur, ont fui tous les services d'FTX, notamment de la plateforme, tous les services du groupe, pardon, notamment de la plateforme d'exchange FTX. Mmh. FTX a dit « nous allons continuer à procéder au retrait ». Mais dans les 24 heures, ils ont dû couper. Et quand FTX, la deuxième plus grosse plateforme au monde, a arrêté de réaliser les retraits de ses clients, la panique est partie en crise de confiance généralisée.
Et aujourd'hui, donc, FTX souhaite se placer sous le Chapter 11, la mise en faillite aux États-Unis. Son patron annonce qu'il quitte son poste de PDG. On avait vu d'autres grands scandales agiter, plomber même le marché crypto cette année. La chute de Luna, de Three Rose Capital ou encore Celsius. À chaque fois, les dommages collatéraux étaient importants. Et là, c'est aussi le cas, cette fois-ci, de gros dommages collatéraux dans l'écosystème, Owen.
On ne sait pas à quel point, mais oui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que suite à la crise UST, beaucoup d'acteurs avaient été en difficulté, comme par exemple BlockFi. FTX s'était positionné en chevalier blanc et avait investi, voire annoncé prendre la direction de certaines de ses entreprises. FTX avait par exemple financé BlockFi. Ils se sont donc, ils ont clairement saisi une opportunité à partir du moment où plein d'économies n'étaient plus saines et que c'était très compliqué. Ils se sont dit voilà le moment d'intervenir et d'accélérer très très fort pour prendre une place encore plus grosse dans l'écosystème. Et c'est justement ça qui les a fragilisés parce qu'ils ont dû emprunter, ils ont dû grossir très rapidement pour fournir de la liquidité à tous les autres acteurs, mais finalement fournir une énorme holding. FTX comptait plus de 130 entreprises au total fournissant des services dans cet écosystème ainsi que des produits dérivés qui allaient bien au-delà du monde de la crypto-monnaie. À ce moment-là, dans cette accélération, qu'est-ce qu'on a ? Quand ça s'arrête, les retraits sont coupés. Premièrement, le premier, c'est l'utilisateur. Celui qui a de l'argent sur la plateforme n'est pas sûr d'être payé. Il y a eu quelques retraits procédés notamment aux Bahamas parce qu'il y avait, c'est là-bas qu'ils sont enregistrés. Donc la loi fait que certains utilisateurs ont déjà pu retirer leurs fonds. Autant vous dire que si vous êtes européen et que vous avez des fonds sur la plateforme, pour l'instant, votre retrait ne s'exécute pas. La deuxième chose, ça va être toutes les contreparties. Il y a plein d'entreprises qui ont arrêté de quitter tout plein de petits protocoles de finances décentralisées ou de petites entreprises peu connues pour se concentrer sur les plus grosses, notamment suite à la dernière crise de confiance, celle de l'UST. Et donc, énormément d'entreprises ont prêté de la liquidité à FTX qui leur rémunérait ce prêt de liquidité. Et donc, on se retrouve avec plein d'utilisateurs touchés directement, plein d'entreprises qui sont touchées indirectement par la plateforme FTX, et il y aura même des rebonds parce qu'on a des entreprises qui détiennent aujourd'hui l'argent de particuliers, et ces entreprises n'ont pas annoncé publiquement, parce qu'elles n'étaient pas tenues de le faire, chez qui elles allaient prêter cet argent. Et donc, je pense que l'on va découvrir, par effet domino, d'autres informations sur cette situation.
Bon, ben, on accroche nos ceintures. Alors, des entreprises françaises sont-elles aussi éclaboussées par la chute de FTX, Claire ?
Alors, je vais faire un peu la même réponse qu'Owen. On ne sait pas encore. Alors, certaines ont déjà communiqué qu'elles n'étaient pas concernées. Ben, c'est le cas de Just Mining, c'est le cas de Bitstack, c'est le cas d'un certain nombre d'entre elles, mais en réalité beaucoup n'ont pas encore communiqué pour une simple raison, c'est que potentiellement elles ne savent pas encore à quel point elles sont touchées, parce qu'elles ont peut-être placé l'argent de leurs clients dans certains produits, qui eux-mêmes plaçaient leurs crypto-monnaies dans certains produits de FTX. Donc on attend de voir le nombre de ricochets possibles, on attend de voir si ces entreprises vont pouvoir vraiment accéder aux crypto-monnaies qu'elles avaient pu placer dans un certain nombre de produits. Donc aujourd'hui, c'est la grande inconnue, et probablement que les entreprises françaises sont elles-mêmes en train d'évaluer à quel point elles sont impactées par cette situation.
Bon, et parmi les dommages collatéraux, on a vu une perte de PEG, une légère perte de PEG du stablecoin géant, l'USDT, face au dollar sur les exchanges centralisés et décentralisés. Alors, quand on dit un stablecoin qui perd son PEG, son arrimage au dollar, ça fait tout de suite peur, parce qu'on avait vu au printemps et à l'été que les dégâts, lorsque un gros stablecoin ou un stablecoin emblématique perd son PEG, les dégâts peuvent être assez importants. Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine sur l'USDT, du coup, face au dollar, est important ? Et où est-ce qu'on en est, Owen ?
Actuellement, le PEG est quasiment rétabli. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme Bitfinex propose toujours d'échanger un USDT contre un dollar, systématiquement, même quand ça panique. C'est juste que si sur Binance, une autre plateforme, quelqu'un vient vendre massivement ses USDT d'un coup, il peut, pendant quelques minutes, quelques heures, déplacer le PEG. Naturellement, il y a des gens qui ont peur et qui peuvent vendre, amplifier ce mouvement de panique, ou au contraire se dire « Génial, je peux acheter 1 dollar à 98 cents ». Et donc, il y a de plus en plus d'arbitres. C'était déjà arrivé, on était descendu à 94 centimes par unité lors de la crise UST, mais très rapidement, l'entreprise Tether a rappelé que non. Non seulement la trésorerie était baquée, donc le seul vrai gros risque qu'on a d'un dépeg pour un stablecoin centralisé, c'est qu'on se rende compte qu'ils aient moins dans la caisse que de stablecoins en circulation. En l'occurrence, ils le rassurent, n'importe qui pourra redeem et réclamer un USDT contre un dollar, quel que soit le prix qu'il y aura on-chain. Et surtout, ils sont backés par principalement du bon de trésor américain ou un équivalent cash. Donc pour le coup, il y a déjà eu des grosses secousses sur UST, mais la majeure partie des acteurs commence à faire confiance. Et aujourd'hui, dès qu'il perd un petit peu de son PEG, beaucoup plus d'utilisateurs en profitent et achètent en arbitrant tout simplement et en pariant sur le fait qu'il va récupérer son PEG très rapidement.
Les pros des cryptos, alors chaque vendredi, une semaine d'actu crypto condensée en 25 minutes pour vous aider, vous qui nous suivez régulièrement, à garder la tête froide face à ce marché extrêmement spéculatif. C'est chaque vendredi les pros des cryptos sur BFM. Pour les clients d'FTX, les nombreux clients d'FTX, qu'est-ce qui va se passer désormais ? Est-ce qu'ils pourront, première question d'ailleurs Claire, est-ce qu'ils pourront récupérer leur argent ?
C'est la grosse question. Et malheureusement, on ne peut pas être catégorique. Alors Sam Bankman-Fried, le patron d'FTX, a dit que c'était sa priorité, que les clients étaient sa priorité, qu'il allait tout faire pour les rembourser. Mais en réalité, on ne sait pas s'il pourra le faire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les clients qui sont aux Bahamas et les clients qui sont aux États-Unis sont prioritaires dans les retraits qu'ils vont faire. Donc ces clients vont probablement pouvoir retirer leur argent avant ceux qui sont d'autres nationalités. Maintenant, pour les autres, et notamment pour les clients européens, en réalité, on ne sait pas. Ça dépendra si FTX rembourse en premier ses créanciers, ses actionnaires, ses clients. Et là, le plus probable, c'est qu'il y ait une sorte de bataille judiciaire qui risque d'être longue. Ceux qui ont connu des déboires avec des exchanges dans toutes ces années dans le secteur crypto le disent. Bien souvent, voilà, il y a beaucoup d'avocats impliqués, ça prend des années. On peut potentiellement revoir une partie de son argent, peut-être pas tout, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est impossible de dire aux clients d'FTX si et combien d'argent ils vont récupérer.
Et on imagine, alors, les investisseurs qui avaient choisi de placer leur crypto non pas sur FTX ou non pas seulement sur FTX, mais aussi sur les autres plateformes d'exchange, Binance, la première d'entre elles, mais il y a aussi Coinbase, il y en a beaucoup, beaucoup. Comment ces autres plateformes ont-elles réagi? Comment est-ce qu'elles ont communiqué face aux difficultés à la chute, tout simplement, du numéro 2 mondial FTX?
Alors, la première chose qu'elles ont faite, pour la plupart d'entre elles, en tout cas pour les plus grandes, c'est déjà de rassurer leurs clients sur le fait que leurs fonds étaient en sécurité. Et donc, certaines d'entre elles ont, par exemple, publié ce qu'on appelle des preuves de réserve pour rassurer sur les garanties qu'il y avait chez elles en matière de gestion des fonds, de gestion des réserves. La deuxième chose qu'elles ont faite aussi, c'est dire que c'est un drame pour toute l'industrie. On pourrait se dire finalement si un de leurs concurrents s'écroule, c'est plutôt une bonne chose pour ces plateformes-là. En réalité, les grands patrons de plateformes d'échange ont tous manifesté leur inquiétude et ont dit qu'ils étaient inquiets des conséquences pour le secteur crypto en général que cette faillite allait avoir. Et moi, dans les réactions que j'ai trouvées, j'ai notamment beaucoup lu celle de Jesse Powell, qui est le patron de Kraken, qui a eu une longue réaction dans laquelle il a manifesté, alors en plus de tout ce que je viens de dire, beaucoup d'amertume aussi envers le patron d'FTX, qu'il accuse de cupidité, voire de sociopathie. Et donc, on sent quand même un peu d'énervement envers cette personne qui, pour eux, a ruiné toute une industrie pour son intérêt personnel. Et il énumère tous les red flags qui auraient dû avertir le public, les régulateurs, les partenaires sur la santé d'FTX. Et notamment le modèle du FTT, qui effectivement n'était pas sain. Toute la communication et le marketing qui était faite par Sam Bankman-Fried autour de sa propre personne. C'est vrai qu'il se paraît d'une sorte de vertu philanthropique un peu ostentatoire. Les contrats à 9 chiffres pour sponsoriser les événements sportifs ou pour avoir des faveurs politiques. Et donc tout ça aurait dû constituer une sorte de faisceau d'indices qui signifiait que la plateforme n'était pas très saine. Et dernier point quand même qui a été aussi relayé par d'autres patrons de plateforme, c'est la responsabilité du régulateur américain qui n'a pas su fournir un cadre juridique sain et qui a donc poussé cette plateforme FTX à l'étranger parce que le cadre juridique aux États-Unis n'était pas workable, donc sain pour ce type de plateforme. Donc à voir aussi comment le régulateur américain va réagir et s'ils vont moderniser leur cadre.
Internet tel qu'on le connaît est né dans une crise, dans la crise de 2000-2001. Est-ce qu'on peut imaginer que les cryptos tels qu'on les connaîtra sont en train de naître, vont peut-être naître d'une de ces crises ou de ces nombreuses crises qui animent l'année 2022. Quelles conséquences cette nouvelle crise, par exemple Owen, aura-t-elle, d'après vous, pour l'écosystème?
Elles seront multiples et je pense qu'on a trop peu de temps pour en faire une liste, mais je pense que techniquement, sur les fondamentaux des projets et l'utilité même de la blockchain, ça rappelle simplement pourquoi Bitcoin a été créé, simplement pour qu'on n'ait plus à faire confiance à une plateforme et qu'on puisse les détenir directement soi-même. Ensuite, d'un point de vue des entreprises, ça va simplement leur dire que si vous voulez être un tiers de confiance, vous devez être encore plus transparent et encore plus pertinent pour ne pas devenir un tiers de confiance inutile et surtout éviter d'amener avec vous les déboires de la finance traditionnelle, car ce sont tout simplement des dérives que ont déjà connues les hedge funds qui ont touché les entreprises dans la crypto, car même si les actifs, eux, sont décentralisés, la méthode de fonctionnement, de conservation et dont on va travailler ces actifs est un métier vieux comme le monde, c'est le métier de la finance et dans la crypto ou non, les risques existent également.
Et on imagine qu'il y aura plus de régulation aussi, que tout ça va...
Et il y aura plus de régulation, ouais. Évidemment, même en espérant que ce ne soit pas un cadre trop strict.
C'est ça, ça va en effet éveiller encore plus l'attention des régulateurs, et MiCA, deuxième...
À juste titre, voilà. Aussi, mais MiCA prévoit effectivement des obligations en matière de réserve pour les fournisseurs de services d'échange de crypto.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos, même au cœur de la tempête, ils sont montés sur le pont. On a pris les embruns tous ensemble. Et c'est important, en effet, de garder la tête froide, d'apporter les clés pour retrouver la lucidité face à ce marché qui bouge énormément. Merci beaucoup. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher, à la tête de Just Mining. Claire Balva, experte crypto indépendante. Vincent Bois nous accompagnait, lui, pour IG. On rappelle que Bitcoin est sous les 17 000 dollars à nouveau aujourd'hui, puisque FTX se place sous le chapter 11, mise en faillite et son PDG quitte ses fonctions. Sam Bankman-Fried annonce son départ du poste de PDG. Nouveau plus bas donc pour les cryptos, plus bas de 2 ans. Le CAC 40, les marchés actions, eux, c'est exactement l'inverse. Belle hausse encore aujourd'hui sur les actions, on s'en reparle juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.